VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Guiriec au micro. Dans 10 minutes, le magazine au féminin avec Nathalie Barge. Mais tout d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. En République démocratique du Congo, le bilan de la récente attaque à l'arme blanche en territoire de Beni s'alourdit. Alors que les premières nouvelles parlaient de 5 morts, un bilan officiel publié aujourd'hui fait état de 19 personnes tuées. Beni, région de l'Est de la République démocratique du Congo, est depuis quelque temps le théâtre de massacres attribués à des rebelles ougandais. Nous déplorons la mort de 18 personnes plus une femme enceinte qui a été décapitée, a déclaré à l'AFP Amissi Kalonda, l'administrateur du territoire. Et toujours concernant la RDC, Human Rights Watch appelle les autorités à libérer sans délai 7 militants des droits de l'homme détenus pour certains depuis plus d'un mois. Idriss Fall.
Dans son communiqué, Human Rights Watch dit que les autorités de la RDC devraient libérer sans délai 7 activistes pacifistes qui sont détenus de manière injuste, certains depuis le 15 mars. À défaut d'une libération, les autorités devraient les inculper d'un délit crédible, ajoute Human Rights Watch, rejoignant une demande formulée la veille par la CAGE, une ONG locale de défense des droits de l'homme. L'Assemblée nationale a constitué fin mars une mission d'information pour comprendre les raisons de cette détention prolongée des militants et ses conclusions se font toujours attendre. Pourtant, l'article 18 de la Constitution de la RDC dispose que la garde à vue ne peut excéder 48 heures et, passé ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Remous politique en Côte d'Ivoire, le MFA, petit parti de la majorité au pouvoir, dénonce la dérive totalitaire du régime d'Alassane Ouattara. C'est ce que rapporte l'AFP. Le chef du mouvement des forces d'avenir, Innocent Kobena Anaki, accuse notamment le pouvoir d'avoir tenté de l'évincer de la tête de ce parti. Déclaration qui intervient à 6 mois de la présidentielle d'octobre. Du nouveau sur l'attentat contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts le 2 avril au Kenya. Les 4 assaillants ayant mené cette attaque revendiquée par l'organisation islamiste Al-Shabaab seraient tous kényans. C'est du moins ce qu'indique le Daily Nation, le plus gros tirage de la presse nationale. Le point avec Eddy Sango.
Ces 4 assaillants ont été tués par les unités d'intervention kényanes. Jusqu'ici, seul un d'entre eux a été officiellement identifié. Il s'agirait d'un Kenyan d'ethnie somalie, originaire des Mandera, ville du nord-est kényane, frontalière avec la Somalie et diplômé en droit de l'université de Nairobi. Les 3 autres seraient eux aussi kényans, en croire des sources qui ont gardé l'anonymat au sein des services des renseignements. Ils seraient originaires de Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est, de la région de Bungoma, près de l'Ouganda. Aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue. Si leur nationalité kényane venait à être confirmée, cela démontrerait les capacités de recrutement des islamistes somaliens d'Al-Shabaab et la radicalisation d'une partie de la jeunesse kényane.
Et c'est dans ce contexte que Médecins sans frontières met en garde contre le retour forcé des réfugiés somaliens dans leur pays, mesure réclamée par le Kenya en réaction au massacre de Garissa. Forcer le retour des réfugiés dans un pays dévasté par la guerre n'est pas une solution, estime MSF. Nouveau naufrage dans la Méditerranée, 41 migrants ont disparu après que leur vieux canot pneumatique se dégonfle et coule. C'est ce qu'ont expliqué les survivants, tous africains, à leur arrivée en Sicile. Par ailleurs, dans un autre incident, 12 hommes ont été jetés à la mer après une rixe sur l'embarcation de fortune qui devait les amener en Europe. Et les victimes, des Nigérians et Ghanéens, auraient été visées en raison de leur religion chrétienne. Leurs assaillants, une quinzaine d'hommes, seraient des musulmans sénégalais, maliens et ivoiriens. Ils ont été arrêtés à leur arrivée en Europe. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé aujourd'hui un appel au calme et à la fin des attaques xénophobes. Par ailleurs, étrangers et sud-africains sont descendus dans les rues de Durban pour exprimer leur ras-le-bol. Michel Joseph.
Au moins 4000 personnes ont marché contre la xénophobie à Durban, à l'appel des autorités locales qui avaient loué des bus pour l'occasion afin de permettre aux habitants des townships de venir manifester. La marche a commencé de façon pacifique, nous dit Kapende Ntashi, un témoin, mais la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser des contre-manifestants. L'incident a duré quelques minutes. Le chef de l'État a condamné les violences dans les termes les plus forts. Nous appelons au calme et à l'arrêt des violences, a lancé Jacob Zuma lors d'une allocution au Parlement retransmise en direct à la télévision. Kapende Ntashi, un Sud-Africain opposé aux attaques xénophobes, dénonce la montée de la peur et les messages de haine. Les violences xénophobes dans les faubourgs de Durban, le plus grand port sud-africain sur l'océan Indien, ont fait au moins 6 morts depuis début avril. Les émeutiers accusent les étrangers de prendre le travail des Sud-Africains ou de faire une concurrence déloyale au commerce local dans les townships où le taux de chômage atteint les 40%.
Épidémie de méningite au Niger, on compte déjà 75 morts depuis janvier, dont plus de la moitié dans la capitale Niamey. D'après le ministre de la Santé, toutes les régions du pays sont touchées, à l'exception de Difa, dans le sud-est, proche du Nigeria. Des campagnes de vaccination seront entreprises dès la semaine prochaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Yémen, où la situation sécuritaire continue de se détériorer, la branche locale d'Al-Qaïda s'est emparée de l'aéroport de Moukalla, dans le sud-est. L'AFP rappelle que le groupe Al-Qaïda au Yémen avait pris le contrôle des principaux quartiers de Moukalla il y a 2 semaines, libérant plus de 300 détenus. Pendant ce temps, des combattants de tribus ont pris ce jeudi le contrôle d'un important terminal pétrolier dans le sud-est du pays. Ils n'ont fait face à aucune résistance, apprend-on de même source. Le président russe accuse les États-Unis de vouloir dominer les relations internationales. Vladimir Poutine dit toutefois que son pays est toujours prêt à coopérer. Répondant en direct aux questions du public sur une chaîne de télévision russe, M. Poutine a rappelé que les efforts de Moscou en vue d'imposer son modèle de développement en Europe de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale n'avaient rien de bon. Cependant, a-t-il ajouté, les Américains sont en train d'agir de la même façon en cherchant à imposer leur modèle à travers le monde. Ce qui est voué à l'échec selon Vladimir Poutine. La Russie est l'une des puissances impliquées dans les négociations sur le nucléaire iranien, mais la récente décision de Moscou de livrer des missiles solaires sophistiqués à Téhéran a été très mal accueillie dans les capitales occidentales et en Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu aujourd'hui une réunion informelle à huis clos à l'initiative des États-Unis sur des accusations d'utilisation de chlore comme arme chimique en Syrie en violation de résolutions de l'ONU. Les ambassadeurs des 15 pays membres devaient entendre des témoignages d'un médecin syrien sur l'utilisation présumée de gaz de chlore à Idleb en mars et à Kousaï, Zakaria, un survivant d'une attaque aux armes chimiques perpétrée près de Damas en août 2013. Washington, Londres et Paris accusent le régime syrien d'avoir mené les attaques au chlore, soulignant que seules les forces syriennes disposent des hélicoptères nécessaires pour répandre le gaz. Deux figures ukrainiennes pro-russes, un journaliste connu et un ancien député ont été tués par balle à Kiev ces dernières 24 heures, rapporte l'AFP. Le président Petro Poroshenko, dénonçant une provocation profitable aux ennemis du pays qui combat les séparatistes pro-russes. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a accusé le gouvernement ukrainien de ne rien faire pour élucider ces meurtres. Au plan international, l'OSCE a appelé les autorités ukrainiennes à assurer la sécurité des journalistes. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Au micro, c'était Morgane Guiriec. Et je laisse ma place maintenant à Nathalie Barge qui vous présentera le magazine Au Féminin.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.